16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, vous écoutez Historiquement, je vous le confirme, pas besoin de test ADN, vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui réunit enfin, après trois millénaires, l'humour et le savoir, odieusement séparés pendant tous ces siècles par la bêtise de leurs familles respectives et qui, comme Roméo et Juliette, ont hâte de rattraper le temps perdu.
Oui, mais alors espérons quand même que ça finisse mieux que dans Shakespeare, Mathieu.
Moi, je sais pas, j'ai jamais lu vraiment.
Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bern.
Ah oui.
Et en fait, je suis vraiment enchanté de passer les deux prochaines heures en votre compagnie pour vous présenter, comme chaque après-midi, une insolite brochette.
Une brochette de quoi vous mettez en appétit, Stéphane?
Oui, alors chaque après-midi, je vous l'explique historiquement vôtre, c'est trois personnages complètement différents.
Ah, c'est ça un peu le concept.
Issus de trois époques fort éloignées,
oui,
mais qui partagent un point en commun. Aujourd'hui, trois gugus pas piqués des hannetons, comme on disait dans ma jeunesse.
C'est ça d'avoir grandi sous Pompidou.
Ah bah oui, ça fait mal d'ailleurs. Néron, Jeanne de Castille et Elon Musk. Quel était, selon vous, leur point commun, Mathieu?
Alors, sachant que de mémoire, l'un a buté sa mère, mis le feu à sa ville, que l'autre a fini interné et qu'un troisième vient de connecter l'esprit d'un cochon à un ordinateur, je crois pouvoir affirmer, Stéphane, que nous avons affaire aujourd'hui à une spéciale marteau, timbré et autres zozo, comme on disait dans votre jeunesse.
Bien vu, Mathieu. Aujourd'hui, notre thème, on est fou, 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 mais on s'en fout.
Je vois que monsieur connaît ses classiques.
Bah, c'est-à-dire?
Bah, vous venez de citer un de nos plus grands poètes contemporains, enfin voyons. On a pu danser là-dessus,
ah
Stéphane.
Ouais, ah ouais. Je m'en souviens pas. Je sais pas, j'ai dû refouler quelque chose.
Vous refoulez pas mal, Stéphane. Heureusement, de même que le sudoku dans les EHPAD, historiquement vôtre vous permet de vous maintenir sur le plan cérébral. Est-ce que vous vous souvenez des différentes chroniques qui émaillent notre émission?
Mais bien entendu.
Ah, voyons, bah,
au sommaire, aujourd'hui, et comme chaque jour, Clémentine,
Clémentier, on la connaît pas. Hein, elle n'est pas encore venue.
Non, c'est entre Clémentine et Portier.
Oui, ça vous avez
Clémentier,
vous avez raccourci son nom.
Nous fait pénétrer.
Dans
l'intimité de l'histoire, elle nous dira qui de Caligula et de Louis XIV était le plus fou. Lui est un fou des fourneaux. Mais n'en faisons pas tout un plat. Aujourd'hui, Olivier Pouls nous raconte l'histoire d'un breuvage qui, lui aussi, peut rendre fou, décidément.
Et ce qui vous rend fou, vous, Stéphane, c'est notre quiz, dans lequel chaque jour, vous tentez de ne pas perdre la face en répondant à mes questions, je l'admets parfois un peu fofolle. Vous allez donc nous narrer l'histoire du sadique et complètement taré Néron, empereur bisexuel, aux pratiques borderline.
J'aime me beurrer la biscotte.
Mais d'abord, Stéphane, accueillons ce journaliste qui croyait rejoindre une émission sérieuse et qui très vite a dû se rendre à l'évidence.
C'est complètement porno, en fait.
Bonjour, David Castello-Lopez.
Bonjour, Mathieu.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui, David?
Des petits sapins qui pendent au rétroviseur des taxis, vous savez, qui sont censés sentir bon.
Et qui sont censés sentir
voilà,
bon.
Voilà, on en parlera.
Tout est là.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, spécial fou aujourd'hui.
Oui Stéphane, une émission intégralement consacrée aux personnages les plus toc-toc de l'histoire, aux illuminés, aux foldingos, aux déglingos de la teuté, bref à tous ceux qui, comme on dit en Belgique, n'ont pas toutes leurs frites dans le même cornet.
Mais avant de vous parler du premier d'entre eux, l'inoubliable empereur Néron. David Castello-Lopez va nous raconter l'origine insoupçonnée de cet objet qui, je le sais, pendouille gracieusement au rétroviseur intérieur de la Fiat Punto de Mathieu Noël, le sapin parfumé.
Vous me connaissez si bien, Stéphane.
Oui, alors, au risque que vous me méprisiez, hein, Stéphane et Mathieu, je dois vous avouer que malgré toutes mes qualités, j'ai au moins un défaut. J'ai pas mon permis de conduire.
Non, ah, vous êtes un vrai parigo, vous.
Voilà, voilà. J'ai passé mon code deux fois, une fois en 2000 et l'autre fois en 2007. J'ai raté et j'ai été tellement humilié que j'ai abandonné. Et ça a eu des conséquences importantes dans ma vie, notamment le fait
train.
Que je prends plus de taxis et de VTC que la moyenne des gens. Et ça m'a donc permis, au fil des années, d'observer finement ce que les chauffeurs de taxi mettent sur leur tableau de bord. Alors, c'est souvent des choses religieuses, hein, des images de la Vierge qui sont censées protéger contre les dangers de la route. Il y a aussi les petits chiens qui bougent la tête comme ça, vous savez.
Ça, c'est un super
voilà. Et surtout, il y a plein d'accessoires qui sont censés améliorer l'odeur à l'intérieur du taxi, mais qui en réalité la rendent borderline irrespirable. Et le roi de ces accessoires qui puent, et qui devraient sentir bon au lieu de puer, eh bien ce sont ces petits sapins parfumés en carton vert ou jaune. Bon, c'est un objet, hein, on va se l'avouer, auquel on pense rarement, hein, mais moi, à force de les observer plus que la moyenne, ça m'a donné envie de savoir d'où ils venaient. Du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alors, pour faire vite, on peut dire que si aujourd'hui il y a des petits sapins accrochés au rétroviseur des taxis, c'est grâce aux nazis. Oui.
Non. Comme quoi.
Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais je pense que ça mérite quand même quelques explications.
Il faut approfondir un petit peu quand même.
C'est grâce aux nazis, parce que si les nazis n'avaient pas existé, eh bien Julius Samann, qui était allemand et juif, n'aurait probablement pas fui l'Allemagne.
Ah,
parce que je veux dire, l'Allemagne sans les nazis, c'était plutôt un endroit sympa. Julius, donc, n'aurait pas fui l'Allemagne et il ne se serait pas installé au Canada. Et s'il ne s'était pas installé au Canada, il n'aurait pas eu l'idée d'étudier la façon dont se dissémine l'odeur des pins dans les forêts canadiennes. Mais comme il y a eu les nazis, eh bien, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Mais Julius, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir étudié l'odeur des pins dans les forêts canadiennes, il s'est installé aux États-Unis, dans l'État de New York, et plus précisément dans une petite ville complètement sans charme qui s'appelle Watertown. Et on était au début des années 50. Et à cette époque, en particulier aux États-Unis, les gens, ils n'allaient pas chercher leur lait au magasin.
Ah, on leur livrait
sur le panier. Ils avaient un abonnement de lait.
Ben voilà. Oui, tous les matins, ils trouvaient du lait devant leur porte.
Oui, vous avez le même abonnement, mais avec du champagne.
Non.
Le champagne est livré. Mais cristal de rodeur.
Mais vous imaginez ma vie, mais oui, c'est pas
Laissez-moi rêver, Stéphane, on vient de se rencontrer.
Mais chaque matin, donc, le laitier venait déposer, comme vous dites, devant leur porte, une bouteille de lait frais pour la journée.
Oui.
Et en gros, un tiers des gens aux États-Unis à l'époque, se faisaient livrer leur lait contre moins de 1% aujourd'hui. Et oui, parce que maintenant, le lait, ça dure vachement plus longtemps. Et en plus, il y a des supermarchés partout. Mais à l'époque, donc, les rues des villes américaines étaient pleines de laitiers en uniforme blanc qui venait livrer le lait. Et un jour, un de ses livreurs a dit à Julius « Écoute Julius, il y a un truc qui m'énerve, c'est que mon camion, il sent le lait pourri. Hein, voilà, c'est une infection, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Et Julius, il l'a écouté, il lui a répondu « Écoute-moi bien, jeune livreur de Lolo, je ne me suis pas laissé faire par les nazis, je peux te dire que ce n'est pas une odeur de lait pourri qui va me faire peur. » Je ne sais pas si c'est exactement ces mots... Je ne sais pas si c'est exactement ces mots-là qui ont été prononcés, hein, mais franchement, il a dû au moins les penser. Et c'est là qu'il a eu l'idée de mettre l'odeur de pain qu'il avait appris à extraire des arbres au Canada sur de petits morceaux de carton en forme de sapin. Alors, personnellement, je doute qu'un sapin parfumé, ça puisse vaincre une odeur de lait pourri. Hein. Je pense que le résultat, c'est plus un mélange abominable entre l'un et l'autre.
Et oui, c'est ce qui se passe souvent.
Mais, oui. Mais il faut tout de même croire que le laitier a été content puisque Julius a déposé un brevet en 1952. Il a commencé à fabriquer ses sapins dans son garage. Il en a envoyé au magasin du coin et ça a été un succès immédiat. Succès bien sûr aidé par le fait que c'était les 30 Glorieuses et que les gens achetaient de plus plus de voitures. Alors l'entreprise créée par Julius s'appelle Little Trees. C'est de l'anglais encore
Ça veut dire... Stéphane.
Petits arbres.
Ça veut dire...
Il le dit avec l'accent anglais.
Exactement.
Petits arbres.
Little Tree, ça veut dire les petits arbres, ce qui est quand même super descriptif. Je veux dire, c'est comme si Europe 1 s'appelait pas Europe 1, mais station de radio qui a pas mal d'audience, mais quand même un petit peu moins qu'avant. Et Little Trees existe toujours et depuis sa création, elle a vendu plus d'un milliard de petits sapins.
Ouais.
Et ses sapins,
il est blindé, le Julius, là.
Il est décédé, mais
oui, avant de décéder, il était blindé,
tout à fait.
Il y a des héritiers qui sont très contents.
Exactement.
C'est ça, oui.
Et ils existent, ces sapins, maintenant, en 60 parfums différents, qui sont absolument tous censés sentir bon, alors qu'en fait, ils puent. Voilà.
Mais attends, j'ai une question. Il y a une seule société qui fabrique tous les sapins qu'on trouve aujourd'hui, ou maintenant, il a déposé un brevet qui est valable encore aujourd'hui
Il a déposé un brevet sur cette forme de carton.
Si c'est un petit sapin en carton, c'est forcément
et en
Julius.
Plus, il se trouve que pour l'anecdote, ils sont complètement tarés avec le brevet qu'ils ont déposé et ils n'arrêtent pas de faire des procès à tout le monde.
Ah bah
parce
ils ont
que, raison. Mais souvent, ils gagnent.
Parce qu'il suffit de faire un laurier ou un autre truc et hop, on peut faire...
Exactement. Et donc, ils gagnent une partie de leur argent en faisant des procès à l'appel à tous les gens qui veulent imiter leur petit sapin qui pue.
Alors Stéphane n'a jamais vu un sapin comme ça parce que dans la Rolls, il est côté arrière, donc il ne voit pas. Il y a une vitre qui le sépare du chauffeur, il ne voit pas le sapin. Mais voilà, c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent.
Le jour où vous allez découvrir ma vraie vie, mais
je vais être tellement
déçu.
Oh mon Dieu.
Je vais voir que j'ai la vie pire que tout le monde.
Entretenons le mythe.
Merci David Castillo-Lopez. On vous retrouve demain et quand vous voulez, le jour, la nuit. C'est en podcast.
Il est toujours disponible, David.
Sur le temps, mais surtout en podcast.
Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Plus jamais vous ne regarderez un sapin parfumé de la même manière et à chacun de vos trajets en taxi, vous repenserez à David Castillo-Lopez. De même que désormais, à chaque fois que vous chanterez en chœur avec Patrick Sébastien, beurré comme des coins à la fin d'un mariage, vous penserez à Stéphane Bern, ce qui est quand même dingue. Notre thème du jour, ils sont foufoufou, mais ils s'en foufoufoutent. Et le maître du genre, c'est Néron.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Vous écoutez historiquement vôtre. 2 heures de savoir rigoureux, mais généreusement badigeonné de bonne humeur. Chaque après-midi, on part à la rencontre de 3 personnages historiques très éloignés dans le temps, mais ayant tous un point en commun. Aujourd'hui, leur point commun, Mathieu, c'est d'être complètement fêlé.
Oui, Stéphane. Alors évidemment, il y a différents degrés de folie. Vous, par exemple, il vous arrive d'avoir de petites crises comme ça de temps en temps quand vous êtes surmené, comme la nuit dernière, par exemple.
Je me suis réveillé au Moyen-Âge, en l'an 1000. On pourrait parler gnomes puants qui m'ont piqué ma bouche. Macron en or.
Non,
parfaitement.
Oui.
On m'a enduit de poids, traîné sur un bûcher qu'ils ont allumé avec des torches. Et après,
Mais écoutez, calmez-vous Stéphane, vous avez pris rendez-vous à la médecine du travail demain matin. En attendant, parlez-nous plutôt de Néron, ça vous calmera les nerfs.
Historiquement vôtre. Le récit.
Plonger dans la vie de Néron, c'est s'enfoncer dans un monde de meurtre et de consanguinité au sein des familles les plus puissantes de Rome. Néron est un assassin, aussi despotique que mégalomane. Un homme animé d'une folie sanguinaire.
Arrêtez, on dirait Ondelatte.
Et ce n'est que le début. Enfin, je parle pour Néron. Néron est né en 37 après Jésus-Christ. Son père, qui meurt alors qu'il n'a que 3 ans, est connu pour sa violence envers ses esclaves et son goût de la débauche. Sa mère, Agrippine la Jeune, est la sœur de l'empereur Caligula, avec qui elle aurait d'ailleurs couché.
Ça commence vraiment bien.
Caligula, connu lui aussi pour ses frasques et sa démence. Une double et lourde hérédité qui fait dire au père de Néron, juste avant sa naissance, « Il est impossible qu'il naisse un honnête homme de moi et d'elle.
» Lucie de moi.
Alors qu'Agrippine est peu après la naissance de Néron condamné à l'exil pour avoir comploté contre Caligula, Néron grandit seul auprès d'une tante sans recevoir l'éducation d'un futur empereur, puisqu'il n'est pas du tout l'héritier potentiel du trône. Mais c'est sans compter sur Agrippine. Quand on lui prédit que son fils deviendra empereur et la tuera, elle répond « qu'il me tue, mais pourvu qu'il règne ».
Et Néron a régné, Stéphane.
Et oui, nous sommes en 54. Néron, adopté par celui qui est devenu le nouveau mari de sa mère, l'empereur Claude, est proclamé empereur. Il n'a que 17 ans. Pour sceller son nom plus fortement à celui de Claude et consolider sa position, il a même épousé sa fille. Octavie.
Il a épousé sa fille.
Oui, la fille de l'empereur Claude.
Ah, voilà, vous suivez? Oui, voilà. Je suis.
Mais la mère de Néron, Agrippine, donc, prépare son coup. Elle attend le moment opportun pour empoisonner son époux, l'empereur Claude, à coups de champignons.
Des champignons, allons bon.
Oui, Néron est empereur, mais c'est Agrippine, avec son immense fortune et sa mainmise sur l'armée, qui tire les ficelles. Elle règne sur un empire qui représente 10 fois la France et compte plus de 70 millions d'habitants. Et pour asseoir son pouvoir, Agrippine élimine tout ce que les familles impériales comptent encore de membres potentiellement dangereux, avant de disparaître elle aussi.
Déjà hein ?
Oui, Néron écarte sa trop encombrante maman. Il la chasse de son palais, lui retire ses privilèges avant de finir par faire assassiner sa mère, réalisant ainsi la prophétie que je vous rappelle, qu'il me tue, mais pourvu qu'il règne. À Rome, où le matricide reste l'ultime tabou, oui, on peut tout faire sauf tuer sa maman. Néron doit justifier son acte devant le Sénat. S'il a tué sa mère, c'est qu'elle-même voulait l'éliminer, explique-t-il.
Ça se tient, c'est une bonne raison, ça dit.
Oui, enfin, c'est pas plausible. En 62, Néron fait aussi exécuter sa femme.
Tant qu'à faire.
Oui, parce qu'il veut se remarier. Il se remarie avec Poppée, qui était jusqu'alors sa maîtresse. Il empoisonne Britannicus. Vous avez vu quand même Britannicus quand même.
Bien sûr, oui, ça me dit quelque chose.
Ça vous rappelle des souvenirs de l'école, peut-être. Oui. Il empoisonne Britannicus, le fils de Claude, et donc son frère par adoption. Mais attendez, le pire est à venir.
Bon, parce que là, on est déjà pas mal, hein, question pire.
Dans la chaleur suffocante du mois de juillet 64, un incendie se déclare à Rome. Si les incendies sont courants, celui-ci est beaucoup plus grave, beaucoup plus violent que tous les précédents. La ville est dévastée. Sur les hauteurs de sa capitale en feu, Néron déclame des vers sur la chute de Troie en dansant et en jouant de la cithare.
Bien entendu, c'est classique, quoi, j'ai envie de dire.
Partout, on commence à murmurer que Néron lui-même aurait donné l'ordre de mettre le feu à la ville de Rome. N'a-t-il pas profité de sa destruction pour se faire construire sa somptueuse villa, la Domus Aurea, la maison dorée, sur des dizaines d'hectares au cœur même de la ville romaine? Certes, il avait le pouvoir d'exproprier les pauvres pour réaliser son projet, mais pas de détruire les temples qui se trouvaient là. Pour se disculper de cet incendie, Néron choisit un bouc émissaire facile, les chrétiens.
Ah, je les ai pas vus arriver, eux.
Les membres de cette toute petite secte, alors, sont jetés en pâture à la plèbe romaine, crucifiés ou transformés en torches vivantes. L'année suivante, l'ancien précepteur de Néron, le philosophe moraliste et richissime banquier Sénèque, est forcé au suicide, accusé d'avoir participé à une conjuration visant Néron. La même année, sa deuxième épouse, Poppée, enceinte, meurt sous ses coups.
J'ai l'impression d'être dans un épisode de Dallas qui aurait été écrit par Stanley Kubrick.
Et vous n'avez pas encore fini l'épisode, Mathieu ?
Mon Dieu.
Visiblement peu affecté par cette hécatombe, l'empereur Néron part pour une tournée d'un an en Grèce, où il donne des représentations théâtrales et séquestre les spectateurs pendant des heures à l'intérieur des amphithéâtres pour les forcer à l'écouter.
Un peu comme vous, finalement, Stéphane, quand vous animez un long prime sur le patrimoine en présence d'un public mal nourri dans un hangar à la plaine Saint-Denis.
Mais non, moi, je les oblige pas.
Ah, pardon.
Ils peuvent sortir.
Ah oui, vous êtes sûr?
Non.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors là, c'est le moment du récit, normalement, Stéphane bug.
Et après quoi?
Bon, envoyez la pub, je vais essayer de le rebooter en mode sans échec.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Johnny l'avait dit, il suffira d'une étincelle pour allumer le feu. Et pour Néron, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, n'est-ce pas Stéphane?
Oui, Néron a volontairement fait brûler la ville de Rome. Il est, à n'en pas douter, le plus fou, le plus vil et le plus cruel des empereurs que la terre ait jamais porté. Mais imaginez un instant, et si tout était faux? Et si tout ce qu'on vient de dire de Néron n'était que pure invention?
Bah, j'espère pour vous que non, vous êtes toujours en période d'essai, si on apprend à vous raconter des carabistouilles.
Mais reprenons. Néron est un empereur fou qui danse sur les ruines de Rome, taché du sang de ses victimes, frères, mères, épouses, au pluriel, précepteurs. Mais au fait, qui nous raconte cela?
Bah vous, Stéphane.
Moi, je vous raconte tout ce qu'on sait de Néron grâce à trois historiens. Tacite, qui était encore enfant à la mort de l'empereur, et Suétone et Dion Cassius, qui ne sont pas des contemporains du tyran. Or, plusieurs textes écrits longtemps après les faits sont bien trop détaillés pour être crédibles. Pour ces historiens, le style est parfois plus important que le fond.
Enfin, Néron, c'est quand même pas une oie blanche, Stéphane.
Non, bien sûr. Mais il n'est peut-être pas le monstre que l'on a décrit, ni le véritable auteur de tout ce qu'on lui a mis sur le dos. Le mois de juillet 64, par exemple, est le plus chaud et le plus sec que Rome ait connu à l'époque. Et le vent a facilité la progression du feu partout dans la ville sans que les soldats de Néron ne l'allument de tous côtés. Et puis à Rome, les assassinats politiques sont menées courantes. Agrippine et Néron n'ont rien inventé.
Néron est un type bien, finalement.
C'est un artiste, surtout.
Un artiste un peu dingue, quand même.
C'est ce que je dis, et ses contemporains ne lui pardonnent pas. Il aime la musique, la poésie, le théâtre. Il prend même, imaginez, des cours de chant pour améliorer ses performances. Dans une société où les comédiens sont tout en bas de l'échelle sociale. Non, c'est invraisemblable. Plus grave, Néron n'est pas un militaire. Il n'aime pas la guerre, il ne cherche pas à agrandir l'Empire. Ça le fâche irrémédiablement avec l'aristocratie et les gouverneurs des colonies. Le 9 juin 68, Néron se suicide en se poignardant à la gorge après le soulèvement de plusieurs de ses gouverneurs. Sa damnatio memoriae, sa condamnation à l'oubli, est votée par le Sénat. Mais il n'a pas été oublié, bien au contraire. Cruellement dépeint dès l'Antiquité, Néron reste aujourd'hui le symbole du mal absolu. Son nom est passé à la postérité en devenant un mot commun. On dit un Néron pour désigner un tyran, forcément.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors, quand un fou de l'histoire comme Stéphane Bern retrace la vie d'un fou tout court, c'est forcément très divertissant, mais est-ce parfaitement vérifié? Pour le savoir, nous accueillons une spécialiste. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, vous avez écrit La véritable histoire des 12 Césars chez Perrin, dans lequel vous consacrez un chapitre à ce foufou de Néron, un chapitre intitulé La tragédie d'un fils à maman. C'était donc ça, Néron, un fils à maman, une maman visiblement pas très sympa.
Alors c'est une sacrée maman qu'il a en effet, puisque c'est une femme qu'on pourrait dire dominatrice, castratrice, une femme qui aurait voulu le pouvoir. Si elle avait été un homme, elle aurait régné. Le problème, c'est qu'à Rome, les femmes ne gouvernent pas. Elle peut remercier les dieux, elle a eu un fils et elle en a fait l'instrument de son pouvoir.
Elle avait elle-même une soif de puissance et de pouvoir. Vous dites, Agrippine n'aimait pas son fils pour ce qu'il est, elle l'aime pour ce qu'elle fera de lui l'objet de sa puissance maternelle. Au fond, lequel des deux est le plus fou? Elle ou lui?
Ah, la question est compliquée. Je pense que la folie commence avec la mère et finalement toute cette ascendance de famille qui ne rêve que de pouvoir, parce qu'ils sont tous pareils. Hein. C'est quelque chose de littéralement atavique. Chez eux, ils veulent régner, ils veulent dominer les autres, à commencer par les autres membres de la famille. Donc la plus folle, c'est elle, parce qu'elle ne se limite pas à ce qu'elle doit faire en tant que femme, c'est-à-dire donner des enfants à l'Empire. Elle veut régner. Et rien que ça, c'est une folie. Elle est féministe avant l'heure.
Mais dites-moi, au fond, tout ce qu'on a raconté sur Néron, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il est, il est aussi fou qu'on le dit?
Ou est-ce qu'on a,
ou est-ce qu'on a, on a inventé Suétone, Tacite, on fait de Néron un tyran qu'il n'était pas en réalité?
Alors comme vous l'avez bien dit Stéphane, effectivement, il y a toute une propagande autour de Néron qui est née par tous les sénateurs qui le détestaient, puisque finalement Néron s'est comporté en tyran, et un tyran empêche les sénateurs de participer à la marche de l'Empire. Et donc si les sénateurs ne participent pas au gouvernement, eh bien forcément ils détestent l'empereur, donc ils font toute une propagande contre lui.
Comment ça se fait qu'il n'ait pas été renversé plus tôt? C'était insupportable ce code dictatorial qu'il avait, les sénateurs, comment ils ont fait pour le laisser en place?
Parce qu'il est légitime, il est un descendant de l'empereur
Auguste. Ah oui, donc il y avait quand même du respect, même malgré sa folie, on s'est pas dit on...
C'est comme vous, hein, on vous laisse en place.
Vous voulez me destituer, Stéphane?
Mais les 5 premières années du règne de Néron sont très bonnes. On appelle le quinquennium de Néron. Oui. Donc c'est un beau quinquennat, en gros, parce qu'il y avait maman derrière et aussi Sénèque qui serrait un petit peu les boulons.
Pas de comparaison, Stéphane, avec ce quinquennat avec maman derrière. S'il vous plaît, Stéphane, ne nous fâchons pas. On se retrouve dans un instant avec Virginie Giraud.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Aujourd'hui, un thème peu traité par les universitaires, peu de thèses de doctorat lui sont consacrées à la Sorbonne et c'est dommage. Notre thème, les grands zinzins de l'histoire. Empereur pyromane, dictateur schizophrène, princesse nymphomane.
J'espère que vous aimez les moules.
Tout y passe aujourd'hui dans Historiquement vôtre. Mais pour l'heure, on parle d'un des plus solides tarés de l'histoire, Néron, avec une spécialiste, Virginie Giraud, docteur en histoire et auteur de La véritable histoire des 12 Césars.
Mais c'est vrai, Virginie Giraud, On le disait, Néron, quand il est associé dans l'histoire à la cruauté, comment vous expliquez son comportement? Est-ce qu'il était simplement le fruit de son éducation ou est-ce qu'il avait ce grain de folie qui faisait que...
Plus que ça, psychopathe presque, parce qu'il n'avait pas d'empathie visiblement.
Oui. Alors oui, il a un petit côté pervers, effectivement, hein, comme le diraient les psychologues aujourd'hui. Bon, on ne va pas psychanalyser les morts, mais effectivement, il était totalement pervers. Et maman l'a un petit peu aidé, effectivement, hein, puisqu'elle ne l'a pas laissé se développer. Elle l'a contenu en permanence, elle en a fait sa créature. Donc il a voulu se venger pour pouvoir exister, hein, d'où le matricide. Et puis il a un côté totalement mégalomane, parce qu'il sait qu'il est le roi du monde, l'homme le plus puissant de l'humanité. Et il en a pleine conscience et donc il veut modeler le monde à sa manière. C'est un grand mégalo qui est sans limite.
Et puis il exerçait son pouvoir sur les femmes aussi. C'est-à-dire que l'oblige Poppée à l'épouser, puis ensuite...
Alors Poppée, c'est une love story. Hein. C'est-à-dire
mais
que...
love story qui finit mal, non?
C'est une love story. Alors on pense plutôt qu'elle est morte d'une éclampsie aujourd'hui, donc d'une maladie gravidique, d'une maladie de la grossesse.
Ah, Stéphane, vous voyez le mal partout.
C'est pas de sa faute, c'est à cause des sources.
C'est des sources, absolument. Oui.
D'accord.
C'est tacite des sources.
Tacite, si tu nous écoutes. Bon.
Mais c'est vrai que dans la famille, il y avait ce gène de... Je ne sais pas si c'est héréditaire, la folie, Virginie Giraud, mais quand même, le grand-père était connu pour sa cruauté, Caligula, Auguste, tous sont... Vous qui avez étudié tous ces empereurs, ils sont dingues.
Alors, il y a un côté effectivement dingue. Alors, les neurosciences semblent prouver aujourd'hui que quand on a du pouvoir, on devient fou.
C'est le pouvoir qui rend fou.
Ça atrophie la zone du cerveau qui gère l'empathie. Donc, plus on a de pouvoir, plus on déteste les autres, quelque part. Et finalement, c'est très orwellien. On sait qu'on a du pouvoir quand on peut faire souffrir les autres. Caligula, Néron, toute l'ascendance de Néron, le grand-père qui écrase des enfants parce qu'il roule trop vite dans les rues,
Il y a un bon côté quand même chez Néron, c'est que d'abord c'est un artiste.
Oui, ça c'est sûr.
Mais ça n'excuse pas tout. On ne peut pas trucider les gens sous couvert d'être artiste.
Mais c'est vrai qu'il aimait la fête, la débauche, certes, mais c'était un artiste, un showman, comme on dirait aujourd'hui.
Il a écrit de très beaux poèmes, hein, vous savez, Stéphane.
Mais même les parties fines de Néron sont scénarisées.
Parlez-nous des parties fines de Néron, je sens que ça s'intéresse.
Nous émoustiller.
Oui, c'est-à-dire, c'était chorégraphie.
Il organisait des parties fines, en fait, qui étaient des parodies de jeux du cirque où il faisait attacher des gens à des poteaux à moitié nus. Lui se déguisait en lion et se jetait sur eux pour leur lécher les parties intimes.
Ouh ! Alors ça, vous voyez, là je visualise bien, là je revis cette époque.
Est-ce qu'on peut... Ça rappelle vos soirées cet été à Saint-Tropez.
Je vous en prie, Stéphane, je vous en prie. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de positif dans son règne, outre les parties fines ?
Alors oui, il y a quand même quelque chose de positif parce que après l'incendie de Rome, donc qu'il n'a pas causé, comme vous l'avez très bien expliqué, il a refait tout l'urbanisme de Rome. Alors certes, il y a son palais, la Domus Aurea, qui est gigantesque, qui est quasiment un mini-univers à l'intérieur de Rome, mais il a aussi refait tout le tracé des rues, il les a élargis, il a fait des coursives au-dessus des rues pour que les pompiers puissent éteindre les incendies. Donc en fait, c'était le baron Haussmann avant l'heure.
Oh, ça, c'est vrai, parce qu'on retient pas, le grand public en tout cas, ce qu'on a de Néron, c'est juste l'image du fou complètement taré qui a brûlé Rome C'est donc faux. Mm-hmm. Et donc ça, on le découvre avec vous.
Vous réhabilitez Néron.
C'est beau.
Je rappelle le titre de votre livre, La véritable histoire des 12 Césars, paru chez Perrin. Et notamment, vous consacrez un chapitre à Néron. Et puis d'autres très sympathiques, Caligula, Claude Auguste.
Mm-hmm. Vous reviendrez d'ailleurs César. Nous en parler.
Oui, parce
que on va tous les faire.
Plus de détails sur ces parties fines la prochaine fois. On prendra 12 minutes.
Quand vous voulez.
On met les photos.
Journée, j'ai des selfies.
Merci beaucoup Virginie.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
On est tous fou, mais on s'en fou. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Les plus grands fous de l'histoire défilent au micro.
Clémentine Portier-Kaltenbach, elle a toute sa tête, Mathieu. Mais elle ne peut pas s'empêcher d'aller fouiner pour nous dans les coulisses de l'histoire. Les coulisses et parfois même dans les alcôves et les chambres à coucher.
Oui Stéphane, à l'aide d'un mystérieux sésame, elle ouvre pour nous chaque après-midi ses portes d'ordinaire closes et derrière lesquelles nous découvrons les grands de ce monde, parfois dans leur intimité. Cléopâtre par exemple en avait visiblement marre d'écouter César discourir sans fin alors qu'elle avait, elle, d'autres envies.
Il ferait mieux de pas trop fatiguer ta langue, parce que tu risques d'en avoir sacrément besoin et pas pour faire un discours demain soir.
Rejoignez-nous vite dans l'intimité de l'histoire.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est toujours un peu fébrile que j'accueille celle qui va probablement m'humilier tout à l'heure.
Très certainement.
Dans le quiz qui suivra sa chronique. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Stéphane. Oui, vous aimez ça que je vous domine dans le quiz.
Justement,
c'est la gueule que j'ai attaché à un poteau.
Justement, attention, évitons de présenter Clémentine comme une historienne portée sur les à-côtés érotiques de l'histoire. Il n'en est rien. C'est une caricature simpliste destinée à amuser nos auditeurs. Mais il est évident qu'il arrive à Clémentine de ne pas parler de sexe. Enfin, pendant 10-12 secondes, comme la dernière fois.
Je vous préviens, messieurs, que moi, il n'est pas du tout dans mes intentions de passer mon temps à faire des histoires de cul. Hein. Parce que qui dit Catherine II dit sexe, voilà. Elle obéit docilement à sa maman et elle sait très bien que son mari continue à coucher avec sa mère, c'est sympa.
Aujourd'hui, Clémentine Portier-Kaltenbach, on reste... Pas de sexe aujourd'hui, pas de sexe. On reste chez les fous avec vous, oui. Vous êtes dans la thématique. Vous allez nous dire qui était le plus fou de Caligula ou de Louis XIV. Alors moi, je dirais spontanément Caligula.
Caligula, moi aussi.
Non, il y a une surprise. Pas, monsieur. Alors, je vais vous raconter deux petites histoires. On est donc dans les années 40 avant Jésus-Christ. Et Caligula possède un cheval nommé Incitatus, ce qui en latin signifie l'impétueux. Il adore cet étalon qui gagne de nombreuses courses de chars et fait donc installer à son intention une écurie en marbre agrémentée d'une auge et d'un râtelier en ivoire. Il fait aussi meubler l'écurie et affecte plusieurs esclaves au service d'Incitatus. Par exemple, la veille des courses, il y a des soldats qui sont chargés de faire respecter le silence aux alentours de l'écurie pour que le cheval puisse se reposer. Vous devez avoir ça à Tiron-Gardet, non? Vous n'avez pas quelqu'un qui veille sur votre repos dans votre lit?
Vous avez donné la localité où se trouve la
Belle. Tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Ça, c'est une information.
D'ailleurs, je vous y donne rendez-vous samedi. Pour
partagé par 67 millions de Français. Alors, revenons à Caligula, les garçons. Alors, Caligula fait même porter un manteau pourpre à son cheval, alors que c'est la couleur réservée aux empereurs.
Ah oui.
Et il lui fait porter un riche collier d'or. Rien n'est trop beau pour Incitatus. À tel point qu'en 41 avant Jésus-Christ, Caligula annonce au sénateur sidéré son intention de nommer son cheval consul. La veille de cette nomination, Caligula est assassiné par sa garde prétorienne. Il n'empêche qu'Incitatus est resté dans l'histoire comme le symbole d'une nomination sur des critères purement affectifs et irrationnels, plutôt que sur la moindre compétence. Et d'ailleurs, en Italie, de façon assez récente, lorsque Silvio Berlusconi, il cavaliere, a promu Mara Carfagna, qui était une ravissante showgirl, ex-Miss Italie, au rang de ministre de l'égalité des chances, elle a été à l'époque comparée par plusieurs journaux italiens au cheval de Caligula, Incitatus. Donc, quand vous voyez parler d'Incitatus, c'est ça, c'est celui-là, il a été nommé par le fait du prince. Donc, ça, c'est Caligula. Le roi numéro 2, vous le disiez, Mathieu, Louis XIV. Louis XIV aime particulièrement le billard et c'est lui qui va le mettre en vogue. Et en fait, ce sont ses médecins qui lui ont prescrit de jouer au billard tous les soirs, après le souper, pour lui éviter de rester assis, parce qu'il a tendance à trop rester assis aux tables de Brelan et de Lansquenet. Il faut qu'il prenne un petit peu d'exercice, pour faciliter sa digestion. Et en 1684, on lui présente un certain Chamillard, qui est un vague conseiller au Parlement, mais qui a la réputation d'être très bon joueur. Alors on l'appelle à la cour strictement pour ça, parce qu'il est meilleur que le duc de Villeroy, qui est le partenaire habituel de Louis XIV. Et donc Louis XIV va rapidement prendre l'habitude de ne plus jouer qu'avec lui. Il joue jouent ensemble trois fois par semaine. Et Chamillard, qui est un petit malin, sait perdre régulièrement pour ne pas humilier le roi Soleil. Et comme par ailleurs c'est un très brave homme, il connaît une ascension fulgurante. De maître des requêtes en 1686, il devient contrôleur général des finances en 1799. Et puis en parallèle à la stupéfaction générale, et alors qu'il ne connaît strictement rien à la chose militaire, le roi le nomme également ministre de la guerre en 1707. Il devient donc le plus proche collaborateur du roi Soleil. Bon, son étoile ne tardera pas à pâlir parce que ses charges sont bien trop lourdes pour lui. Comme contrôleur général des finances, il se révèle catastrophique. Et ailleurs qu'au billard, c'est plutôt un médiocre sans talent. D'ailleurs, pendant son administration financière, jamais le trésor royal ne fondra aussi vite et jamais les impôts n'augmenteront autant. Et donc, sous la pression de son entourage, le roi va finalement accepter de s'en défaire. Mais enfin, il lui alloue, ainsi qu'à sa femme et à son fils, une importante pension. Du coup, à la cour, Chamillard se fait épingler dans différents pamphlets. Et dans cette épitaphe restée célèbre, « Sigille le fameux Chamillard, de son roi le protonotaire, il fut un héros au billard, un zéro dans son ministère. »
Alors, c'est pas mal.
Messieurs, moi je vous le demande, de ces deux monarques, qui est le fou? Est-ce que c'est Caligula qui voulait se moquer des sénateurs en nommant son cheval consul? Ou Louis XIV qui nomma son partenaire de billard aux plus hautes fonctions de l'État? Qui est le plus fou?
C'est arrivé souvent depuis... où un chef de l'État nomme un partenaire de chasse, par exemple, haute fonction.
Mais oui, c'est pour ça que s'il fallait désigner un vrai fou furieux, je citerais plus volontiers Xerxès, qui, ayant échoué dans son projet d'envahir la Grèce par l'Hellespont à cause d'une tempête, fit fouetter la mère, qui reçut 300 coups de fouet, et fut marquée au fer rouge. Parce que sinon, d'une manière générale, m'est avis, comme vous Stéphane, que lorsqu'il s'agit des outrances de nos dirigeants et du choix de leurs favoris, on doit souvent, plutôt que la folie, évoquer simplement le fait du prince.
Vous avez tout à fait raison, Clémentine. Portier Kaltenbach, c'était formidable.
Oui, mais vous voyez qu'on peut intéresser sans nécessairement aller en dessous de la ceinture.
C'est vrai que ça marche aussi, Clémentine. Merci, vous restez avec nous. De toute façon, vous adorez ça, Clémentine, car c'est le moment où vous avez l'opportunité de rappeler à l'ensemble de nos auditeurs que vous ne présentez peut-être pas Secret d'Histoire sur France 2, mais que vous avez fait beaucoup plus d'études que Stéphane. Voici venir le quiz.
Ça, c'est sûr.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre. Vous écoutez Historiquement vôtre, 2 heures de savoir, de bonne humeur, mais aussi de coups bas. En effet, chaque jour vers 5h-10, c'est l'heure du quiz. Le choc frontal entre d'un côté une historienne reconnue, diplômée de la Sorbonne, qui a rédigé les questions du Trivial Poursuite, de l'autre, un animateur télé, vitrier à 16h.
Akena, la reine des vérandas.
C'est plus moi, c'est je vous donne. Non, oui, mais c'était vous, et ça longtemps. Avant, et je vais vous dire, dans l'esprit des gens, ça restera pour vous. Ah si, Stéphane.
C'est notre ami Franck Ferrand qui a pris la suite.
C'est vrai?
Mais oui, vraiment.
Vous l'avez pistonné.
Que les historiens. Bah oui, je l'ai pistonné, c'est normal.
Alors bon, c'est l'heure du quiz. Jouons ensemble à Burn to be Alive. Alors attention, c'est un quiz, un vrai faux. Une bonne réponse, un point. Première question pour vous, Stéphane. Comme quoi, vous allez voir, l'histoire tient un fil. À 4 ans, le petit Adolf Hitler a failli s'étouffer avec un morceau de viande. Il a été sauvé par la méthode Heimlich, du nom d'un médecin juif d'origine hongroise qui consiste à faire des compressions abdominales. Vrai ou faux?
J'adorerais que ce soit vrai.
Oui, mais c'est pas la question. La question, est-ce que vous répondez vrai ou faux?
Mais, pardon, je connais, hélas, l'œuvre diabolique de Hitler.
Vous êtes vraiment bon en histoire.
Mais pas... écoutez, je vais dire oui, c'est vrai.
Vous dites oui, eh bien c'est faux. Mais il a été sauvé d'une noyade à 4 ans par un autre petit garçon à peine plus âgé. L'histoire a été racontée par un journal local, le Donau Zeitung, puis confirmée par le petit garçon qui ensuite est devenu prêtre. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. La KCNA, à savoir l'agence de presse gouvernementale officielle de la Corée du Nord, que vous connaissez bien, a publié un authentique communiqué soutenant que Kim Jong-il avait la faculté physique de contrôler la pousse de sa barbe, contrairement à moi. Vrai ou faux?
Moi, je pense que Kim Jong-il est capable de faire des choses absolument extraordinaires à la sidération de son peuple. Et donc, je pense qu'il est tout à fait capable, par télékinésie et auto-persuasion, de faire pousser sa barbe plus vite que les copains. Donc, je réponds oui.
Et c'est une mauvaise réponse, c'est faux. En revanche, toujours selon cette agence gouvernementale de Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, rappelons-le, avait inventé, figurez-vous, le hamburger. Il avait fait 5 trous en un au golf en jouant pour la première fois et il savait piloter des avions sans avoir pris une leçon. Et très très fort, il avait trouvé une authentique grotte où vivaient des licornes. Tout ça selon la KCNA. Alors, troisième question, vous êtes nuls tous les deux aujourd'hui.
Vous avez
zéro point. C'est pour vous, Stéphane. En 1964, Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature, mais de toute façon, une éruption volcanique l'aurait empêché d'aller chercher son prix. Vrai ou faux?
Non, il aurait pu y aller.
C'est une bonne réponse, Stéphane, c'est complètement faux. Il a écrit dans Le Monde « Toutes les distinctions que peut recevoir un écrivain exposent ses lecteurs à une pression que je n'estime pas souhaitable. » Question numéro 4. Alors attention, Clémentine, il va falloir se rattraper. L'empereur Néron, dont on parlait tout à l'heure. Mais on n'a pas tout dit sur Néron. Il n'avait pas été très complet, Stéphane. L'empereur Néron adorait manger des glaces et plus particulièrement des sorbets. Vrai ou faux?
Alors ça, c'est vrai que c'est capital pour l'histoire du
monde.
C'est
très important et ça n'apparaissait pas dans votre récit, soi-disant
exhaustif.
Alors
écoutez, je sais qu'il y a une scène extraordinaire de l'histoire entre Saladin et Renaud de Châtillon où Saladin est en train de manger un sorbet. On mélangeait de la glace avec laquelle on écrasait des fruits. Compte tenu de l'amour pour la cuisine des Romains, il est tout à fait possible que Néron ait eu des glacières à Rome et qu'il ait pu manger du sorbet. Donc je réponds oui.
Vous voyez, c'est la force de Clémentine, c'est son raisonnement. Oui. Raisonnement forgé dans une excellente école qu'on appelle Sciences Po. Et raisonnement parfaitement dialectique, on y arrive. Sorbet, oui, première sorbetière à plus de 2000 ans. Néron faisait transporter en bateau de la neige et de la glace des montagnes. On les conservait avec de la paille et des fourrures. On parfumait la glace avec des fruits écrasés et du miel. On a même retrouvé des écrits du philosophe Sénèque qui trouvait cette pratique fort coûteuse. Mais tu m'étonnes, mais forcément. Question numéro 5, elle va vous départager, puisque vous avez chacun une bonne réponse. On le sait tous, on doit beaucoup aux Grecs. Des choses étonnantes, même. Comme quoi? Trois propositions.
Le yaourt.
Là, vous pourriez être éliminé pour cette réponse. C'est vrai que cette réponse-là devrait vous éliminer d'office.
C'est pas plus bête que ce que vous nous proposez comme question.
Trois propositions. Dans les grandes propriétés, on jouait de la lyre dans les élévateurs. C'est l'ancêtre de la musique dans les ascenseurs. On compilait des histoires drôles dans des ouvrages, c'était l'ancêtre des livres de blagues, ou on tuait des condamnés à mort par tirage au sort avec un système de boules noires, c'était l'ancêtre de Motus.
Moi, je répondrais éventuellement la 3, parce que chez les Romains, il y a le...
Motus
la... Oui, le fait d'exécuter des prisonniers.
D'où Motus et bouche cousue, parce que...
Oui, mais parce que chez les Romains, il y a bien la décimation, c'est ça, la décimation, pour éviter les désertions, on compte 10 soldats, et pouf, on liquide le 10e.
Solidaire avec ma copine Clémentine, je vote aussi pour la 3e réponse.
Comme ça, vous voterez tous les deux, c'est bien. Non. Qu'est-ce qu'on doit aux Grecs? Qu'est-ce qu'on doit aux Grecs? Eh bien, le premier livre de blagues. Au 4e siècle, on appelait ça le Philogélos, un recueil de 265 blagues les plus populaires du moment.
C'est vrai qu'on se marrait bien.
Il savait rire. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une blague vieille de 1600 ans. Alors accrochez-vous, bon, ça a 1600 ans, donc on peut l'excuser. C'est un intellectuel qui apprend l'existence d'un escalier avec 20 marches à la montée. Du coup, il demande combien il y en a à la descente. Comme quoi, Tex aurait pu faire un carton dans l'Antiquité. Victoire de qui? Égalité, une fois de plus. Vous êtes la touche-touche, si j'ose dire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors que notre émission commence à s'installer, que vous en avez compris le principe, chaque jour, trois destins, trois personnages a priori sans aucun rapport, mais qui en fait en cachent un. Certains m'ont demandé, mais où puisez-vous vos idées pour les thématiques? En feuilletant des encyclopédies à la bibliothèque Richelieu? En relisant Les grandes heures de l'humanité de Stéphane Zweig? Ben non, nos idées de thèmes avec Stéphane, on les pioche dans les plus grands succès de Patrick Sébastien.
Et oui, là, par exemple, très vite, dès le 10e gin tonic, on a trouvé l'enveloppe. On est fou, mais on s'en fout. On vous raconte aujourd'hui l'histoire, le destin des grands fêlés de l'histoire.
On a démarré assez fort avec Néron, c'est vrai. Mais si vous aimez la folie, vous allez kiffer l'histoire de Jeanne de Castille, suivie de celle d'un fou plus récent, mais bien attaqué aussi, Elon Musk, l'homme qui veut nous envoyer en Tesla sur Mars d'ici 2025.
Après,
on verra, Elon, ça fait déjà bien loin, Mars.
(rire) 16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Avec celui qui ne se la raconte pas. Bon, en même temps, comment le pourrait-il? Mon complice, Mathieu Noël.
Sacré Stéphane, j'en connais bien là votre esprit taquin qui transparaissait déjà nettement dans la pub que vous aviez faite pour une enseigne de jardinage et dont la punchline bougrement malicieuse était
« Il est où le trou? Mais il est où le trou ?»
Bref, c'était sûr qu'en combinant votre humour et mes connaissances, cette émission ne pouvait être qu'un carton. Chaque après-midi, nous évoquons ensemble trois personnages historiques liés par un point commun. Aujourd'hui, le fait est qu'ils étaient tous complètement timbrés.
C'est le mot, Mathieu. Et oui, après Néron, nous allons maintenant attaquer, si je veux dire, quelqu'un qui l'était sévèrement, Jeanne la Folle, Juana la Loca. Comme on dit, c'était Jeanne Première de Castille.
Loca comme dans la chanson de Shakira.
Soy loca comme tu.
Traduction. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est passé quelque chose d'incroyable que je dois signaler aux auditeurs qui peut-être ne nous suivent pas sur Europe 1.fr. Stéphane Bern a esquissé un groove du haut avec les épaules et c'était à la fois excitant et terrifiant. Je ne sais pas trop comment le décrire.
C'est de la radio en même temps.
C'est, oui, c'est ça. C'est ça. C'était vraiment étonnant.
Alors, on va parler de Jeanne la Folle.
Jeanne la Folle, Madeleine de Dios. Alors, pour que ce soit son surnom, elle devait être vraiment folle. Hein. Moi, par exemple, on m'appelait le Rocco Siffredi du Léman. Et bon, sans vous faire de. Enfin, je peux vous dire que
oui,
ça.
Oui, en même temps, on ne peut pas savoir.
Ah oui, d'accord,
non,
d'accord.
Voilà. Je vais plutôt vous dire ce qui nous attend dans cette deuxième
c'est
heure.
Mieux.
Au programme, après Jeanne la Folle, un vrai toqué du fourneau, notre journaliste historico-gastronomique Olivier Pouls nous racontera, les plats m'en tombent, l'histoire de
joli.
La sainte.
Oh, c'est fort. Ça débouche la chiotte, ça.
La boisson qui rend fou.
Merde. C'est pas une boisson pour mouillette.
Et Mathieu, comme chaque jour, vous dresserez le portrait de notre troisième personnage, l'un de nos contemporains. Lui aussi, il est un peu zinzin, Elon Musk.
Ça vous dites musc comme le musc, comme,
oui,
comme le musc dans vos parfums.
On dit Elon Musk,
mais vous aimez
là,
bien.
Là, j'aime ouais, bien, oui.
Très bien.
M-U-S-K.
Vous pouvez faire. De toute façon, vous avez tous les droits, Stéphane.
De toute façon, on ne va jamais le rencontrer, il faut être honnête.
Il y a peu de chance, effectivement.
En tout cas, c'est un milliardaire mégalo qui veut nous envoyer sur Mars. Ça sera dans 99% vrai. Votre chronique où tout est presque vrai. Ouais,
j'ai hâte de m'entendre, je dois dire que je suis assez fan. Mais là tout de suite, j'ai surtout envie d'entendre l'histoire de Juana la Loca, direction l'Espagne. Ah oui, Stéphane, j'ai oublié de te dire avant que tu signes, on n'a pas un choix énorme dans la base musicale ici. Désolé, hein, il faudrait que tu fasses avec.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Est-ce que l'on est fou ? Ou bien sont-ce les circonstances de la vie qui font qu'un jour, sans prévenir, on bascule dans la folie. Comme l'année dernière, quand, durant les journées du patrimoine, alors qu'il avait généreusement ouvert les portes de son abbaye restaurée, des visiteurs indélicats avaient uriné dans les bégonias de Stéphane Bern et que dans un coup de sang, il les avait chassés à coups de mousquet en hurlant
« Soyez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races !»
Mais Stéphane n'est pas fou. Les mots avaient simplement dépassé sa pensée. Jeanne de Castille, elle, Juana la Folle, était authentiquement cinglée. C'est son histoire que Stéphane va à présent vous raconter.
Historiquement vôtre. Le récit.
Je vais en effet vous raconter ce qui est peut-être l'une des plus tristes histoires de la royauté ibérique. Jeanne de Castille naît le 6 novembre 1479 à Tolède, en Espagne donc. Elle n'est pas encore Jeanne la Folle. Au contraire, tout semble sourire à cette jeune princesse qui reçoit une éducation soignée. Elle peint, elle brode, elle joue de la musique.
Elle se fait chier, quoi.
Pas vraiment. On dit qu'elle est fort jolie, avec une resplendissante chevelure et un beau teint frais. Bref, Jeanne de Castille a tout pour plaire et se montrer digne de son rang. Ce n'est pas une mince affaire, car Jeanne est la troisième enfant de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle de Castille, les célèbres rois catholiques, los reyes católicos.
Non, là, c'est, pour moi, los reyes católicos, ça sonne un peu comme, plutôt comme une chanson de Ricky Martin. Mais, los reyes católicos, quelque chose comme ça un peu. Et non, toi, et ça fait los reyes católicos, los reyes católicos.
Vous salissez d'où vous
non, c'est vous qui salissez l'espagnol, une langue d'ordinaire rieuse.
Oui, mais là, on parle d'une histoire tragique.
C'est vrai, donc
los reyes católicos ont réussi par leur alliance à réunir les deux provinces autrefois rivales de Castille et d'Aragon pour ne former qu'un seul royaume, le royaume d'Espagne, presque enfin unifié et bientôt à son apogée. Christophe Colomb s'apprête à lancer son expédition pour le compte de la couronne, la Reconquista est sur le point de s'achever, les Arabes ont été chassés de la péninsule et bientôt ce sera au tour des Juifs que l'on convertit de force, ce sont les Maranes, ou que l'on pousse à l'exil. La chrétienté triomphe. La cour vit d'ailleurs dans une ferveur religieuse terrible. Le titre de roi catholique décerné par le pape Alexandre VI, Alexandre Borgia, ne l'a pas été au hasard. La Sainte Inquisition vient d'être instauré.
Clairement, on n'est pas sur une ambiance très plage, sexe et mojito, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire, Mathieu. Jeanne grandit dans cet environnement étouffant. C'est sa mère, Isabelle, qui se charge de son éducation. Bien trop stricte à son goût. Heureusement, en 1496, Jeanne de Castille peut partir. Enfin, le prince charmant se présente, Philippe de Habsbourg, fils de l'empereur Maximilien Ier, qui règne sur les Flandres et la Bourgogne. Philippe de Habsbourg a de l'allure, il est grand, il est élancé, il est charmant.
On a compris qu'il vous plaisait, quoi.
Non, c'est pas moi qui le dis.
Ah.
Il est tellement charmant qu'on le surnomme Philippe le Beau. Jeanne en tombe folle, si on peut dire. Parce que, bon, on va la surnommer Jeanne la Folle plus tard. C'est encore une ado, elle n'a que 17 ans. Mais hélas, le mariage ne va pas émanciper notre jeune princesse, loin de là. Sa mère tente d'abord de vérifier sa foi et la moralité de son entourage. Mais Jeanne refuse de se confesser. Il faut dire que la jeune mariée a d'autres chats à fouetter. Elle est tellement éprise de son beau Philippe qu'elle en délaisse ses responsabilités, notamment ses responsabilités religieuses. Pire, elle se montre jalouse, possessive. Aye. Elle traque les maîtresses de son frivole époux pour leur tirer les cheveux.
Leur tirer les cheveux, c'est pas très sympa ça, Stéphane. En même temps, peut-être qu'elle le mérite.
Bon, ce qui semblerait tout à fait normal aujourd'hui est, en ce début de 15e siècle, le signe d'une déviance. Entre deux crises, Jeanne de Castille se montre taciturne, réservée, pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend d'une future souveraine. Abandonnée par Philippe le Beau, Jeanne de Castille est obsédée à l'idée de retrouver son époux. Sa mère, Isabelle la Catholique, est consternée. Elle qui a fermé les yeux, comme tout le monde, sur les infidélités de son propre mari, dans l'intérêt du royaume, se demande si elle peut vraiment laisser les clés d'un empire si laborieusement édifié à une midinette. Car, et c'est bien tout le problème, Jeanne est désormais l'héritière du trône. Sa sœur, son frère, son neveu sont morts successivement. Et Jeanne, elle n'a pas été formée à ça.
Moi, je n'ai pas été formé à présenter une émission histoire et pourtant, je m'en sors bien, Stéphane.
Oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Okay. En 1504, la reine Isabelle meurt. Dans son testament, elle choisit de nommer son mari, Ferdinand de Daragon, régent à la place de Jeanne. Philippe le Beau flaire l'entourloupe. Sous prétexte de défendre les intérêts de sa femme, il s'offusque et vient réclamer son dû. Jeanne est déjà hors course. Son père et son mari n'ont pas l'intention de lui laisser la place. C'est finalement Philippe, le beau Philippe de Habsbourg, qui obtient gain de cause et hérite de la couronne. Mais à peine deux mois plus tard, coup de théâtre. Philippe le Beau décède mystérieusement.
Europe 1, historiquement vôtre.
En biologie, on appelle ça un coitus interruptus. En radio, on appelle ça la pub. Restez avec nous pour connaître la suite des aventures de Jeanne de Castille, dite Jeanne la Folle.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue, deux heures conçues pour satisfaire dans un même élan vos zygomatiques et vos neurones. Chaque après-midi, trois personnages, un thème. Aujourd'hui, trois guélurons qui auraient pu se dandiner ensemble dans un cabaret en chantant... Oui, ils sont fou, mais ils s'en fou. On a parlé de Néron, on va parler d'Elon Musk dans un instant, ou d'Elon Musk pour notre ami Stéphane Bern. Stéphane Bern va nous raconter la fin de l'histoire édifiante de Jeanne de Castille, dite Jeanne la Folle, pour savoir si elle va enfin occuper la place qui est la sienne.
Résumé des épisodes précédents. Jeanne de Castille doit hériter du trône de sa mère, Isabelle la Catholique. Mais son père, Ferdinand d'Aragon, et son mari, Philippe de Habsbourg, tentent tous deux de se l'approprier. Quand soudain son mari meurt, a-t-il été empoisonné? En tout cas, sa disparition arrange bien son père. À tous les prétendants de sa fille fraîchement veuve, et notamment au roi d'Angleterre qui se verrait bien mettre la main sur l'Espagne, le père, Ferdinand II d'Aragon, explique que la santé mentale de sa fille ne lui permet pas de se remarier. Imaginez, elle aurait refusé, dit-on, de se séparer du cadavre de son défunt époux. Elle se ferait ouvrir chaque nuit le cercueil pour lui baiser les pieds.
Ah oui, ça va loin, effectivement.
Grand seigneur, Ferdinand d'Aragon assure les affaires du royaume à sa place. Doucement mais fermement, il reprend la main sur la Castille. Le père fait enfermer la fille dans le palais de Tordesillas. Pas vraiment un palais, plutôt une forteresse aux murs épais dont on s'assure qu'elle ne puisse jamais en sortir. En 1516, Ferdinand le catholique meurt à son tour. Son petit-fils, Charles, le fils de Jeanne, lui succède. Charles Ier, vous savez, le futur Charles Quint.
Bah, évidemment que je sais.
Il décide de garder sa mère dans cette terrible prison.
Donc, bref, quand c'est pas le mari, quand c'est pas le père, c'est le fils.
Oui, le fils sera pire que les autres.
Charles vous le dites Quint... avec une étincelle de vice.
Oui, non, c'était pas un rigolo, hein, Charles Quint. Charles Quint n'assouplit pas ses conditions de détention. Au contraire, Jeanne est enfermée dans une toute petite pièce noire, sans fenêtre, éclairée faiblement par une petite bougie. On n'appelle pas de médecin quand elle est malade. Et on va parfois jusqu'à la torturer. Sa fille, Catalina, la dernière de ses enfants, qui est retenue avec elle, demande à son frère d'intervenir pour que Jeanne ait au moins le droit de se promener dans le corridor. Refus net de l'empereur. On pourrait l'entendre. Pourquoi un tel besoin de museler sa mère? Charles veut conserver l'unité de son empire qui s'étend maintenant de Grenade à Amsterdam. Si Jeanne revendiquait son droit au trône de Castille, elle mettrait à mal cette unité. Et puis, il y a le principal enjeu de ce XVIe siècle. Maintenir une unité religieuse alors que la réforme protestante progresse un peu partout. Dans sa prison, la santé de Jeanne de Castille se dégrade.
Si elle n'était pas folle en y entrant, en fait, elle devient folle à l'intérieur.
Exactement, c'est ça. Jeanne la folle refuse de se laver, de se lever, de se nourrir. Elle développe même une aversion pour la pratique religieuse. Bon, on la comprend, ça fait des décennies qu'on la force. Après presque 50 ans d'une détention terrible, la reine s'éteint en 1555. Était-elle vraiment folle? Ou seulement la victime des intrigues de ses proches pour l'écarter du pouvoir? Le débat n'est pas clos. Une chose est sûre. Jeanne est devenue une figure dramatique, trop mélancolique, trop amoureuse, trop rebelle, trop intéressée par les jeux de pouvoir, maltraitée par tous les hommes de sa famille. Elle représente même, pour certains, le destin tragique des femmes à travers les siècles.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et si Stéphane ne nous avait pas tout dit sur Jeanne la Folle? Et si, comme on dit, il avait gardé du biscuit, juste pour lui? Au cas où, j'ai préféré inviter un spécialiste. Bonjour Bruno Fulini.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, historien, maître de conférences dans l'excellente école Sciences Po, et vous avez dirigé l'ouvrage « Les rois fous de l'histoire » aux éditions First, dans lequel il est évidemment question de Néron, dont on parlait tout à l'heure, et de Jeanne la Folle. Est-ce que finalement elle était folle, ou est-ce que c'était juste une femme amoureuse? Et à l'époque, c'était mal vu.
Disons que dans la morale de l'époque, l'épouse d'un roi est là pour lui donner des enfants. À la limite, qu'elle ait ses plaisirs à côté ne pose aucun problème. Et elle, elle ne joue pas le jeu. Il faut dire qu'elle sort du couvent, qu'elle est mariée à 18 ans et que son mari, c'est, vous l'avez dit, Philippe le Beau. Donc elle en tombe éperdument amoureuse. Et non seulement elle est amoureuse, mais elle est exclusive. Et c'est là qu'il va y avoir un petit souci, parce que évidemment Philippe le Beau, lui, il est de festin en tournoi. C'est un jeune homme très très mondain, très très couru et très très demandé. Et entre les dames de la cour, les suivantes, il a toutes sortes évidemment d'occasions. Et ça, Juana ne le supporte pas. Ce qui fait qu'à un moment, munie d'une paire de ciseaux, elle va littéralement sauter sur une de ses rivales pour essayer de lui couper les cheveux. En fait, elle va carrément lui entailler la chair. Donc, c'est une scène de jalousie, au fond. Mais
c'est pas de la folie, au fond. On a un peu inventé sa folie pour l'écarter du trône.
Bah, disons que, bien sûr, ça n'est pas en soi de la folie, mais ce côté très exclusif, très possessif, et les scènes que ça occasionne ne sont pas dignes d'une reine. En fait, elle n'a pas été, et vous l'avez dit aussi, elle n'a pas été éduquée pour régner. Mmh. C'est une série de décès inopinés qui la place sur le trône, et elle fait passer, je dirais, sa vie privée avant le sens de l'État.
C'est peut-être ce qu'on appelait de la folie, c'était simplement
c'est sa vie privée.
Mais en fait, elle est devenue folle parce qu'on l'a enfermée pendant 46 ans, voilà le résultat.
Et puis il y a eu cette configuration dramatique dans laquelle et son mari, et son père, et ensuite son fils Charles, avaient intérêt à ce qu'elle soit cloîtrée, claquemurée, parce que ça leur permettait d'exercer le pouvoir à sa place. C'est-à-dire que juridiquement, elle est restée reine de Castille. Et les Castillans, pour ne pas être annexés, tenaient à ce qu'il y ait une reine. Mais le pouvoir était exercé en son nom par d'autres. Par son père d'abord, par son fils ensuite.
Bon, on va continuer à parler de Juana la Loca, Jeanne la Folle, avec notre invité Bruno Fulini dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre chaque après-midi. L'histoire sans se la raconter. Notre thème du jour, les grands tarés de l'histoire. Deux heures pour comprendre la folie de Néron, de Jeanne, de Castille. Tout à l'heure, celle d'Elon Musk, le virevoltant fondateur de SpaceX. Sujet délicat que la folie, on est toujours le fou de quelqu'un. Constance Binquet, la patronne d'Europe 1 par exemple. Eh bien, la première fois qu'elle a rencontré Stéphane Bern, elle l'a pris pour un fou. Faut dire qu'il venait de quitter RTL, ses propos n'étaient guère cohérents.
Je suis du temps de Louis VI le Gros. Il faut que tu m'aides.
J'appelle du secours.
Non, monsieur est très gentil, il va nous laisser tranquille. Hein. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles.
Aujourd'hui, Stéphane, on peut le dire, vous allez mieux. Vous êtes en tout cas en état de nous parler d'une personne qui, elle, était vraiment folle, ou en tout cas qui l'est devenue. C'est tout l'objet de notre discussion avec Bruno Fellini, Jeanne de Castille. Elle n'était pas folle comme Néron. Enfin, Néron, dès la base, de manière atavique, il avait l'air complètement taré. Jeanne, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est les circonstances qui l'ont entraîné vers la forme de folie.
Sur les circonstances, on a un petit peu cultivé sa folie. Il faut voir aussi qu'il y avait dans son entourage un certain Ferrer qu'on peut légitimement soupçonner d'avoir cultivé, aggravé cette folie, c'est-à-dire ce qui pouvait n'être au départ qu'une dépression ou une mélancolie à force d'enfermement, d'humiliation, a pris des formes assez spectaculaires qui ont justifié et aggravé l'enfermement et la folie. Et puis il faut voir aussi que si on la compare à d'autres monarques, c'est une folie douce. Au fond, elle ne sent prend qu'à elle-même, alors que des personnages...
Elle a quand même empaillé la chair de l'autre, vous dites,
voilà, c'était une crise de jalousie, ça n'était pas le quotidien. C'est rien par rapport à, par exemple, Elio Gabal. C'est rien par rapport à un Ivan le Terrible qui balançait aux ours ses opposants pour qu'il les bouffe. C'est beaucoup plus intériorisé. Il faut voir aussi que c'est une femme, effectivement, qui, à la fin de sa vie, renonce à la religion, mais qui, au départ, est empreinte d'une religiosité très sombre, quand même à la fin du 15e siècle, en Espagne. Bon, et donc...
Enfin, excusez-moi, Bruno, elle était un peu nécrophile aussi, quand elle ouvre le cercueil de son mari pour enlever les bandelettes.
C'est avéré, ça ?
Et qu'elle lui baisse les pieds.
Stéphane, c'est vous qui vous emballez avec cette histoire.
Il y a une iconographie très riche sur ces épisodes-là, mais qui date quand même beaucoup du 19e siècle, où on a aimé le côté gothique de cela. C'est pas aussi certain qu'on le croit. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était les usages de l'époque, le corps de son mari avait été embaumé, on avait enlevé les viscères, donc c'était pas un corps en putréfaction. Elle vouait un véritable culte à cet époux, elle l'a soigné pendant sa maladie, il est mort à 29 ans, et après, eh bien, elle a continué à vénérer cet époux décédé, donc évidemment, c'était assez terrible. Et pour nous, contemporains, c'est stupéfiant. Mais il faut encore se mettre dans le contexte de l'époque, et par ailleurs, il n'est pas évident que ça a été aussi répétitif qu'on l'a écrit après. Ouais. Il est certain qu'à un moment, elle l'a fait sortir de son cercueil pour le revoir, mais qu'il était embaumé, c'était pas un corps en putréfaction.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on a dit après que Jeanne la Folle avait transmis ce gène de la folie aux Habsbourg d'Espagne, et d'ailleurs on verra plus tard qu'il y a ça. Le mariage Aragon-Castille plus Habsbourg avec cette mâchoire prognate, etc. Enfin, on a raconté plein de légendes sur...
C'est vrai, mais il faut voir qu'elle-même est déjà l'héritière d'une consanguinité importante, et sa propre grand-mère était déjà très déséquilibrée. Donc ça ne date pas de Jeanne dite la folle.
Oui, éviter d'épouser ses frères et
sœurs. Oui, c'est ça le problème. Je vous l'ai toujours dit avec votre passion, c'est que le problème c'est la consanguinité quand même. Donc, c'est bien joli, mais voilà, ça déraille.
Maintenant, il faut renouveler le sang.
Ah oui, maintenant.
En tout cas, dans votre ouvrage, les rois fous, c'est vrai qu'il y a des... c'est une galerie de portraits très sympathiques. On retrouve Caligula, Elio Gabal, Charles VI, Louis II de Bavière. Lequel est le plus fou de tous ?
Le plus fou est sans doute Elio Gabal, parce que tout le monde ne vénère pas une pierre à laquelle, pour avoir des enfants, on offre des sexes d'hommes fraîchement tranchés. C'est pas le loisir de tout le monde. Ivan le Terrible se défend. Par exemple, à un moment, il y a un archevêque qui lui résiste. Eh bien, il le fait coudre à l'intérieur d'une peau d'ours, et puis il lâche ses chiens habitués à chasser l'ours, justement. Bon, là aussi, on est quand même très très loin. Mais là, c'est une folie cruelle.
Ça vous plaît, c'est à vous noter. Contre vos ennemis.
Voilà. Non, mais c'est vrai que ça laisse songeur aujourd'hui. En tout cas, merci Bruno Fulini d'avoir été avec nous. Je rappelle, les rois fous de l'histoire, c'est aux éditions First.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Je connais mon Stéphane, il y a des signes qui ne trompent pas, ce bruit par exemple. Oui, cet élégant gargouille nous indique que Stéphane commence à avoir faim. Il est temps d'ouvrir le vieux grimoire d'Olivier Pouls où sont consignées toutes les recettes jamais inventées par l'homme. Je suis sûr qu'on y trouvera un truc pour qui vous fera envie, Stéphane. Oui, je sais, pas de caviar.
Non, je le digère mal.
Ici délicat.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Avant d'accueillir Olivier Pouls, qui chaque jour nous fait découvrir l'origine souvent insolite d'un plat, j'aimerais couper court à une vilaine rumeur qui circule dans Paris et qui prétend que, sous couvert de co-animer cette nouvelle émission avec moi, Stéphane Bern serait en fait arrivé en vedette et que je ne serais au fond à ses côtés qu'un vulgaire faire-valoir, un assistant, un commis. Stéphane vous le confirmera, c'est complètement faux.
Oui, c'est fou. Bah,
évidemment, nous travaillons d'égal à égal, comme vous en seriez convaincu si vous pouviez entendre nos échanges hors antenne.
Quels sont les ordres, Excellence ? Une omelette aux truffes. Pas certainement, Excellence, je m'en occupe moi-même.
Oui, c'est l'heure où son Excellence commence. Avoir un peu faim, qu'on fasse entrer Pouls.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, faim et j'espère un peu soif aussi.
Oui. Aujourd'hui, point de denrées, mais un breuvage dont vous souhaitez nous parler.
Bah oui, puisqu'on parle des fous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on prétendait
vous en
rendre
beaucoup.
Fous ouais, peut-être un peu trop.
Et là, il croit qu'on va couper au montage.
Oui, mais non, en fait, ça va rester.
Parce que vous avez consommé cette boisson dont vous nous parlez aujourd'hui.
Peut-être un peu trop. Vous savez, l'absinthe, le fameux alcool qui prétendait-on rendait fou et qui fut interdit d'ailleurs en France pour ces raisons-là. Alors l'absinthe, c'est un alcool distillé à base d'une plante qui s'appelle l'absinthe, une plante assez commune qu'on trouve assez facilement, qu'une grande plante avec des fleurs jaunes. et qui était d'ailleurs utilisé à l'Antiquité comme une plante médicinale. On lui prêtait des vertus, notamment d'aider à la digestion.
Ah, peut-être que Néron en a un petit peu abusé, bah, sans s'en rendre compte.
Mais à part qu'à l'époque, on ne la distillait pas, on n'avait pas les techniques de distillation. Un peu plus tard, on les a même infusées dans du vin. Mais la vraie distillation arrive au XVIIIe siècle, en Suisse, mon cher Mathieu notamment.
On a toujours été pionniers en Suisse, sur le secret bancaire, sur l'absinthe, toujours numéro un, Stéphane.
Avant de se répandre en France et de devenir un alcool extrêmement populaire. Il n'est pas très cher.
Ah, c'était pas cher.
À 90% des apéritifs pris au 19e siècle, c'est à base d'absinthe.
Oh, la belle époque.
Ouais, la belle époque. Mais le problème, c'est que les gens ont un peu
avec
tendance
modération,
à en abuser. Et notamment un certain nombre de célébrités comme Van Gogh, Rimbaud ou Verlaine qui avaient de temps en temps tendance à dérailler un petit peu. Et on accusait l'absinthe. Et pourquoi ? Parce que dans l'absinthe, il y a une molécule qui s'appelle la thuyone. Et que l'on pensait qui détraquait les cerveaux, qui rendait agressif, qui pouvait même mener jusqu'au meurtre d'ailleurs. Et donc des ligues anti-absinthe se sont créées et ont commencé à avoir du poids, à tel point qu'en 1915, en France, on interdit l'absinthe. Fini, terminé, plus d'autorisation de distiller cette plante. Ce qui va d'ailleurs permettre à un autre alcool de prendre le relais.
Le pastis.
Exactement. Le pastis devient très populaire dans les années 30 parce qu'il remplace l'absinthe.
C'est pas le Dubonnet d'abord, non le...
Alors le Dubon, Dubonnet, c'est aussi un des alcools qui
remplace
qui est créé avant lui, qui est créé au 19e siècle. Mais le pastis, c'est un peu plus tard.
Mais là, on parle de notre jeunesse à nous, pas la vôtre, Stéphane.
Mais non, c'est pas ça. J'essaye de remettre un peu de chronologie historique. Non,
oui, pardon, un peu de chronologie.
Un peu de tenue quand même
évidemment,
dans cette émission.
Un peu de tenue, mais on parle quand même de pastis.
Mais l'absinthe n'a pas dit son dernier mot, les amis, parce que c'est bientôt l'heure de l'apéritif. Et oui, et je pourrais vous en servir si vous voulez.
Mais c'est fou, j'ai revu des...
Ben oui, parce que depuis 2001, elle est à nouveau autorisée en France, parce que les moyens scientifiques modernes ont démontré que la fameuse thuyone, finalement, n'était pas si méchante que ça, et c'est pas elle qui rendait fou.
Mais c'était quoi ?
Alors, on en limite quand même les taux dans les absinthes modernes, ben, c'était probablement tout simplement l'abus d'alcool. C'est que l'absinthe, c'est très élevé en taux d'alcool, c'est 70% d'alcool à l'époque. Autant vous dire que quand vous en buvez beaucoup, ça finit par monter au cerveau. Mmh. Et puis, vous savez, il y a ce petit rituel de préparation de l'absinthe.
On mettait du sucre, exactement.
Voilà, parce que l'absinthe, c'est assez amer. Alors, on a un verre à absinthe, une cuillère à absinthe, c'est des cuillères qui sont trouées, on met un petit morceau de sucre dessus, on met l'absinthe dans le verre et ensuite on verse de l'eau très froide tout doucement sur le sucre, de manière à ce qu'il fonde. Ensuite, il va tomber dans le verre, il y a une espèce de réaction qui va se produire et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'absinthe la fée verte, une espèce de réaction un peu magique et puis alors on le déguste, l'eau doit être très froide. Alors ce rituel, aujourd'hui, on peut encore l'appliquer, mais l'absinthe est à nouveau autorisée, vous pouvez en consommer et d'ailleurs vous pouvez même l'utiliser
avec
en
modération.
Cuisine avec évidemment beaucoup de modération. Et vous pouvez même l'utiliser en cuisine. Ça fonctionne extrêmement bien avec le chocolat. Avec le chocolat.
Ah oui,
l'absinthe et le chocolat,
mais
c'est délicieux.
En fait,
vous faites un gâteau au chocolat et vous mettez un tout petit peu d'absinthe dedans.
C'est pour ça qu'on a mal fini l'autre soir.
Je vous rassure.
C'est un space cake.
Non, mais l'alcool va disparaître au moment de la cuisson de votre gâteau. Il n'y aura plus d'alcool dedans. Mais vous allez parfumer votre gâteau au chocolat avec ces notes herbacées d'absinthe. Et bien, c'est pas si mal que ça.
Vous n'avez pas d'idée pour le gâteau au chocolat à faire pour l'anniversaire de votre enfant le week-end prochain. Un peu d'absinthe dessus. Et là, ils feront moins de bruit, les gosses. Bien joué.
Surtout si vous leur en servez un bon verre.
Évidemment.
Et on retrouve Olivier Pouls chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte.
Des très bons vivants même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous avez remarqué, chers auditeurs, toutes les informations que nous vous donnons dans Historiquement vôtre, toutes les histoires que nous vous racontons sont scrupuleusement vérifiés dans des livres de référence qu'on ne peut consulter qu'à la BNF.
Oui, enfin, sauf cette semaine, parce que tu sais, on a eu un problème avec le badge à la BNF, ça a bugué, donc on a dû finir le travail avec Wikipédia quand même.
Ah, Dieu, pardon. Nos petits secrets de fabrication n'intéressent pas les gens.
Certes.
Non, dans Historiquement Vôtre, tout est vérifié à 100%. Sauf justement vous, la chronique de Mathieu.
Moi non plus, je ne suis pas vérifié à 100%. Oui, ça s'appelle 99% vrai, et chaque jour, je vous invite à découvrir un personnage un peu plus contemporain que ceux que nous dépeint Stéphane. Aujourd'hui, celui qui rêve d'aller
le chanteur de Gold.
Non, presque. Elon Musk, le fantasque créateur de SpaceX.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors notre spécial, on est fou, mais on s'en fout, continue Mathieu, avec un chef d'entreprise mondialement connu, pionnier des nouvelles technologies, souvent présenté comme fou, mais est-ce que c'est vraiment exact ?
Effectivement, Stéphane, après avoir bossé sur lui pendant deux jours, je peux vous le confirmer, Elon Musk n'est pas fou. Il est complètement starbé. Pour l'affirmer, je n'évoquerai pas ses projets de voyage sur Mars, sa certitude qu'un jour les voitures se conduiront toutes seules. Ou même ses dernières tentatives pour relier le cerveau d'un cochon à un ordinateur. Non, je m'appuierai sur un fait bien plus incontestable. Selon le magazine Forbes, à l'heure où nous parlons, et propulsé par la valeur de ses actions Tesla, Elon Musk serait à la tête d'une fortune de 100 milliards de dollars. Et pourtant, il continue de bosser. Qui, je pose la question, à part quelqu'un dont les fils se touchent, continuerait de bosser avec 100 milliards sur son PEL? Personne, Stéphane. Non. Vous-même. Vous avez beau aimer l'histoire. Si vous aviez 100 milliards, vous ne seriez pas là. Mais soit dans une ancienne abbaye classée monument historique que vous auriez fait refaire dans le Perche, soit dans une villa sublime que vous posséderiez sur une île grecque. Quoi ? Ah pardon, signal en régie, que l'exemple n'est pas bon car vous avez déjà tout ça. Oui, non, bref, non, alors non, non, alors bon,
non, mais
vous seriez, encore plus riche, vous pourriez racheter toutes les Cyclades. Il est évident que vous ne mettrez plus votre réveil à 6h pour partir vous geler les miches dans un château inchauffable suivi par des caméramens de France 2 qui, disons-le, ne sentent pas toujours rose.
Ah ben non,
et,
ça.
Et pour vous ébahir devant des statues ou des colonnades que vous pourrez vous-même désormais vous payer qui plus est en or. Elon Musk, lui, n'a renoncé en rien à bosser. Comme dirait Geoffroy Roux de Bézieux, il croit à la valeur travail. Sud-africain, naturalisé canadien puis américain, Elon est né d'un père ingénieur et d'une mère nutritionniste et mannequin, qui a d'ailleurs longtemps orné les boîtes de céréales Special K. Et oui, chers auditeurs, si ça se trouve, vous vous êtes déjà donné du plaisir en pensant à la mère d'Elon Musk.
Non.
Moi, en tout cas, oui.
Oh, non.
Diaboliquement précoce, âgé de seulement 12 ans, Elon vend son premier programme de jeux vidéo pour l'équivalent de 500 dollars et lit, selon son père, 2 livres par jour. Voilà, ça c'est dit typiquement l'info à la con, parce que 2 livres par jour, si c'est Guerre et Paix et Les Misérables, ok, tu dis waouh, le gamin est génial. Si c'est trop, va au pot et Choupi cosmonaute, c'est pas ouf non plus. À 17 ans, après avoir donc lu 2 choupis par jour, Elon Musk quitte l'Afrique du Sud et poursuit ses études au Canada, puis aux États-Unis. Il y cofonde la compagnie Zip2. Rien à voir avec les braguettes, cher à Stéphane. Il s'agit d'un éditeur de logiciels de publication de contenu en ligne qu'il va revendre 341 millions de dollars.
Ah oui,
alors, c'est là, permettez-moi d'insister, que la folie entrepreneuriale d'Elon se manifeste vraiment. 341 patates à 17 ans. À sa place, Stéphane, comme tout individu normalement constitué, vous seriez immédiatement parti vivre à Corfou avec quelques amis triés sur le volet en vous exclamant «
Ça va lécher dans tous les sens. »
Tout simplement, à nous la belle vie. C'est l'expression générale qui englobe tout le reste, dont ce que vous venez de mentionner. Eh bien, Elon, lui, n'a aucune envie de se dorer la nouille à Corfou. En 99, il crée PayPal.
Ah, c'est lui ?
Et c'est lui, c'est grâce à lui, Stéphane, que vous avez acheté votre aspirateur robot sur Amazon. Et vous avez commandé votre machine à jambon, Olivier. Effectivement.
Et les jambons.
Et les jambons avec, ouais, sans avoir besoin d'entrer votre numéro de carte. Il est partout. En 2002, déçu par la NASA, je cite, il fonde SpaceX, qui développe et produit des véhicules de lancement spatiaux avec l'objectif à long terme de rendre possible la colonisation de la planète Mars. C'est à partir de ce moment-là que Elon commence à partir un peu en vrille. En 2008, il signe un contrat donc avec la NASA, justement pour lui donner un coup de boost, et produit des lanceurs afin de ravitailler la Station Spatiale Internationale. J'aimerais revenir sur cette phrase « déçu par la NASA ». Moi, quand je suis déçu par des saucisses sous vide du Franprix, je vais chez le boucher. Voilà où s'arrête mon ambition. Personne n'est déçu par la NASA. Déçu par Love Bean Sport, déçu par la mise à jour de l'iPhone, déçu par la fin de la série Lost. Ok, mais je ne peux pas aller plus loin dans la remise en question du monde. On ne se réveille pas déçu par la NASA en se disant que nous, on fera mieux. Elon, oui. Fin 2013, après avoir pris 341 millions de dollars sur sa première boîte, créé PayPal et sauvé la NASA, on pourrait se dire, là, le type va avoir un coup de mou. Un peu comme Stéphane le vendredi quand il est fatigué et qu'il se laisse aller à des vannes indignes de lui.
Et en plus, tous ses habitants, ce sont des femmes avec des seins en silicone.
Et parce qu'après, évidemment, il y a eu ce qu'on appelle la Silicon Valley.
Eh bien non, car contrairement à Stéphane, même fatigué, Elon Musk ne se laisse jamais aller. Un matin, pendant que nous on se demande comment on va faire pour récupérer le grand au judo tout en déposant le petit chez la nounou, lui se demande comment on pourrait créer un avion électrique supersonique qui pourrait décoller et atterrir verticalement afin de fonder une colonie d'1 million de personnes sur Mars. Une idée, Stéphane, je vois que vous levez la main.
Tu crois qu'on pourrait avoir de l'eau, en fait?
Ah oui, je me disais aussi, faux salaire. Tout en réfléchissant à ces histoires de décollage vertical,
de sur Mars.
Elon crée d'autres entreprises, toujours dans des secteurs de pointe, Tesla, évidemment, créateur de véhicules électriques, et aussi dans l'intelligence artificielle avec Neuralink. Alors, c'est à mes yeux la plus chimérique de ses ambitions, faire qu'un jour l'intelligence artificielle supplante tout à fait l'homme. Il y a, selon moi, des domaines dans lesquels ce sera toujours impossible, comme par exemple notre métier d'animateur radio, Stéphane, bien trop complexe pour une intelligence artificielle.
Ah bon? Parce que tu crois que c'est complexe de dire « Bonjour, vous écoutez historiquement votre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter ?» En plus, moi, je suis moins cher que toi.
Oui, non, mais ça va pas, faites-moi taire cette folle de voix.
Et
oui,
beaucoup moins cher que Stéphane Bern.
Oui, bref, hélas pour nous, Stéphane, Elon Musk investit de grosses sommes dans l'intelligence artificielle. Son but, je cite, « changer le monde et l'humanité ».
Changer les femmes, changer les hommes. Oui. Avec
mais Alors, justement, pas avec des géraniums. Elon a plus de suite dans les idées que Julien Clerc avec la technologie. Sachez par exemple qu'une de ses sociétés...
C'est pas Julien Clerc, c'est Laurent
Voulzy.
Hein.
C'est Laurent
Voulzy. Ouais,
c'est juste
Laurent Voulzy.
Mais ça, c'est bien, parce que ça a coupé au montage.
Non,
Julien Clerc.
Non.
Mais ça, mais non. Et vous savez pourquoi?
C'est le 1% faux.
J'ai le droit de dire ce que je veux. C'était le piège. C'était Julien Clerc, le faux. Non, écoutez, ça, c'est intéressant. Il a créé The Boring Company, une société qui bosse sur les embouteillages afin de trouver un moyen de supprimer les bouchons. Si vous pouvez partager quelques infos avec Anne Hidalgo, on lui en serait reconnaissant, parce que c'est vrai que toutes ces pistes cyclables qu'elle a fait à Paris, c'est génial, mais quand on roule encore un Hummer comme vous, Stéphane, comment dire ?
Salope !
Non, ce que Stéphane veut dire, c'est qu'il faut peut-être un peu plus de concertation. En tout cas,
on parle des bouchons sur la route, pas les bouchons, des bouteilles.
Ah non, non, ça, on vous fait confiance. En tout cas, s'il ne se révèle pas de bons conseils pour gérer les bouchons sur la route, Elon Musk remplace avantageusement à lui tout seul le célèbre guide des prénoms qui aide les futurs parents à choisir, vous savez, le nom de leur progéniture. Oui, c'est un expert. Alors déjà parce qu'il a 7 enfants. Ensuite parce que contrairement à nous, qui hésitons, vous savez, à donner à notre nouveau-né un nom original comme Myrtille ou Apollin, lui, Elon, n'hésite pas. Il y va franco. Est-ce que vous savez comment il a appelé son petit dernier, Stéphane ? Est-ce que vous avez une idée ?
C'est pas...
Sglawux.
Eh bien, vous savez, on n'est pas très loin. Il trouvait que Brandon s'était déjà vu, John aussi, alors il l'a appelé XAEA-8-12 Musk. Un pédopsychiatre lui dira « Mais vous êtes fou, monsieur Musk. Imaginez la galère que ce sera pour XAE-8-12 à l'école. » Ce à quoi Elon répliquera probablement « M'en fous, je rachèterai l'école. Fuck it, I will buy the school » dans le texte. Voilà Stéphane, un portrait forcément elliptique du fantasque Elon Musk. Mais avez-vous détecté ce qui était faux, à part mon erreur sur Julien Clerc, qui n'était pas
le
voulu.
Prénom, c'est pas possible. Comment l'enfant il se fait appeler à l'école?
Eh bien, je ne sais pas, mais que je vais être obligé de racheter l'école. Il s'appelle vraiment, et c'est la première fois justement que le portrait a été, sauf mon erreur sur Julien Clerc, 100% vrai, parce que sa vie est tellement dingue, il a vraiment appelé son fils XAE-8-12 Musk.
Pauvre enfant.
Pauvre enfant, je n'irai pas jusque-là.
Non, pauvre.
Je me demande si je ne préférerais pas m'appeler XAE, machin.
Et avoir son compte en banque. Hein. En tout cas, merci Mathieu pour ce premier numéro de 100% vrai.
Eh oui, c'est le premier.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque jour, quand je réalise qu'on approche de la fin d'Historiquement vôtre, mon petit cœur se serre. Je pense à ces adieux du coude qu'on se fera tout à l'heure dans le hall avec Stéphane avant de chacun repartir vers nos vies. Moi, mon petit studio de la porte de Clignancourt. Lui, son hôtel particulier des beaux quartiers. Moi, sur ma mobilette à l'éthanol. Lui, plus respectueux encore de l'environnement, sur sa chaise à porteur, mu par ses 4 fidèles assistants.
Le tartaresque. Oui. Le Ouïghour, oui. Le Persan et l'Arabe.
Oui, il ne connaît pas encore leur nom, ça fait que 3 ans qu'il bosse pour lui. Mais ne pensons pas aux adieux. Il reste ce moment phare de l'émission, le mot de la fin de Stéphane Bern.
Eh oui, cher Mathieu, je vais mettre un peu de sérieux quand même dans cette émission, parce que là, vous racontez n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes un nageur émérite, si j'en crois les clichés photographiques postés sur votre compte Instagram, vous êtes plutôt enclin à vous prélasser dans une bouée licorne que faire une leçon magistrale de dos crawlé.
Bah, détrompez-vous.
Quoi qu'il en soit, pour ma part, je voulais souhaiter un bel anniversaire à Muriel Hermine. Rappeler un palmarès impressionnant, championne du monde en natation synchronisée, 13 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe, l'occasion pour moi de revenir sur une expression aquatique. Nager entre deux eaux.
Ah oui, j'ai cru comme un poisson dans l'eau, parce que comme un poisson dans l'eau, je pouvais l'expliquer en 2 minutes, t'avais pas besoin de faire une chronique. Hein.
Exactement.
Ah, oui.
D'où vient cette formule
Nager entre deux eaux.
D'une manière générale, oui, parce qu'on pourrait penser on nage et puis de temps en temps, vous savez, on a un courant chaud, un courant froid. Ben non, c'est pas ça.
Ça, c'est les gens qui urinent dans les piscines publiques. Ça n'a rien à voir, Stéphane. Ça, je vous expliquerai.
Ah bon ?
Oui, oui.
D'une manière générale, on l'utilise pour désigner une personne qui refuse de s'engager, qui ne fait pas de choix, qui ménage la chèvre et le chou, comme on dit. Et dans ces cas-là, eh bien, on dit qu'on nage entre deux eaux. C'est en fait au XIVe siècle que l'on commence à le dire, et plus spécifiquement dans le domaine maritime. Nager, à l'époque, signifie conduire un bateau. Dès lors, le capitaine qui arrivait à nager entre deux eaux était celui qui, malgré de mauvais courants ou des vents contraires, réussissait à garder le cap dans la direction souhaitée.
Et malgré toute l'absinthe qui s'enfilait.
Peut-être. En France, on l'a dit, on a, pour la même signification, ménager la chèvre et le chou, mais aussi couper la poire en deux ou encore être assis entre deux chaises, ce qui n'est jamais l'idéal ni très confortable, vous en conviendrez Mathieu.
Évidemment.
Dans les pays anglo-saxons, on utilise « to swim between two waters », qui veut dire « nager entre deux eaux ».
Oui, j'ai bien compris Stéphane, c'est la même chose, c'est une traduction littérale.
Jamais, vous avez fait espagnol première langue. Au Brésil, on dit « avoir un pied sur chaque canoë ».
Mais comment vous le dites en brésilien, en portugais ?«
Tem
Ce qui est fou, c'est que vous vous lancez.
Mais
vous
parlez, j'étais prêt, mais vous
parlez un peu le portugais ?
Oui, un petit peu.
Ah,
Oui, mais je, là, je
mais une autre
pas.
Occasion.
Une autre occasion. Et je me préparerai à parler à lingua portugaise. En étrange expression, mais on comprend quand même. Et en Argentine, on préfère quedar bien con dos y con el diablo. Vous avez compris, bien se conduire avec Dieu et avec le diable. Je ne résiste pas à vous livrer une citation de Fanny Ardant.
Qu'est-ce qu'elle fout là ?
En amour, il y a un temps pour plonger. Mais il faut attendre que la piscine se remplisse si on ne veut pas plonger dans un bain de pied.
Est-ce que, on se demande vraiment pourquoi Nicolas Bedos a fait appel à Fanny Ardant, qui doit être très chère, plutôt qu'à vous. Vous le faisiez tout aussi bien qu'elle. Pour son dernier film.
Mais je l'adore, Fanny. C'est depuis les Dames de la Côte, j'en suis fou. Alors, quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. Joyeux anniversaire à Muriel Hermine. Et j'espère aujourd'hui qu'à défaut de nager entre deux eaux, elle nage en plein bonheur.
Merci beaucoup, Stéphane. Une fois de plus, vous aurez éclairé nos lanternes.
Ah, ça, c'est rigolo, vous savez, oui, Mathieu, parce que l'expression éclairer votre lanterne, c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est beaucoup plus compliqué.
Oui, mais surtout, c'est beaucoup trop long. On a plus le temps, mieux vaut se remémorer tout ce qu'on a appris déjà aujourd'hui, Stéphane.
Oui, vous avez raison, Mathieu, soyons raisonnables. C'est vrai qu'on en a appris des choses aujourd'hui, que mettre le feu à une ville tout entière n'est pas un signe de bonne santé mentale, que l'absinthe est à consommer avec modération, que Jeanne la Folle n'était peut-être pas folle et que l'empereur Néron aimait bien manger des sorbets.
C'est important. C'est peut-être important. La faute la plus importante, et c'est moi qui l'ai donnée. Tiens, la rappeler.
Oui, c'est vrai.
Vous avez oublié le sapin parfumé sous le rétro des taxis. Ah, oui. Moi qui cherchais un beau cadeau d'anniversaire pour vous, ça m'a donné une idée. Surtout que sur eBay, j'en ai trouvé un senteur fleur de lys.
Ah, ça pue la lys.
Ah bon
ça, ah, non, les fleurs
ah, c'est
de
pas
lys,
bien, ça, fleurs ça, lys, ça sent pas bon.
C'est un parfum entêtant, non?
Ah, bah oui, mais justement, pour votre Fiat Punto, c'est parfait, un parfum entêtant.
Non, en tout cas, je suis très touché pour votre réponse.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et oui, historiquement vôtre, se termine.
Effectivement, Stéphane, je vois votre chaise à porteur garée en double fil devant l'entrée. Hâtez-vous, Stéphane.
Malgré vos piques perverses et ridicules parfois, eh bien, c'est le cœur lourd, parce que c'est un bonheur de présenter cette émission avec vous, Mathieu.
C'est bien l'émotion. Hein.
2 heures en compagnie des plus grands fous de l'histoire. Et demain, d'autres fous encore dans Historiquement vos défauts de foot. Alors qu'on sera à la veille du retour des Bleus sur le terrain.
J'espère qu'on va encore trouver une chanson de Patrick Sébastien sur le sujet, parce que celle d'aujourd'hui va me trotter longtemps dans la tête. Demain donc, on change juste une lettre à notre thème. On est fou, mais on s'en fout.
Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.